Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphren.
C'est la semaine de la langue française et Emmanuel Macron, le plus anglophone de nos présidents de la République, a présenté sa stratégie pour faire du français le trésor partagé par 700 millions de personnes dans le monde. Et grâce au dynamisme démographique, la francophonie est l'espace linguistique à plus forte croissance. Jusqu'en 2065, plus 143% contre 62% à l'anglais. Le français figure actuellement en 5e position derrière le mandarin, l'anglais, l'espagnol et suivant les estimations, parce que les calculs peuvent varier, le hindi ou l'arabe. Alors évidemment, il y a les statistiques. Mais ce qui importe, c'est de savoir ce que nous apporte de penser en français. Si l'esprit français signifie quelque chose, et quoi aujourd'hui? Dans quelle mesure peut-il représenter un trait d'union entre des personnes venues d'espaces culturels extrêmement différents, entre le Nord et le Sud? C'est Jean-Michel Delaconté, écrivain essayiste, qui va nous aider à penser notre langue française. Bonjour Jean-Michel Delaconté.
Bonjour.
Certains disent que la francophonie est un fauné de l'ancien empire colonial. Qu'est-ce que vous en pensez?
Un fauné, je crois que c'est une sorte de, je sais pas, de vérité quand même. Mmh. Bon, cela dit, maintenant reste à savoir si c'est un...
Ou un alibi.
Ou un alibi, oui. Mmh. Reste à savoir.
Non, mais ça veut dire que ça habille une politique en fait étrangère qui est plus cynique qu'elle y paraît.
Écoutez, moi, je trouve que défendre sa langue, sa sphère d'influence, il n'y a rien de plus normal. Moi, je ne vois aucune honte là-dedans. Aucune. On défend nos intérêts. Ça passe notamment par la langue, mais c'est à notre profit. Mais à mon avis, c'est tout autant au profit des populations concernées. D'ailleurs, la meilleure preuve, si ce n'était pas à leur profit, c'est qu'ils auraient pris la langue française souvent comme langue nationale ou binationale. Donc, moi, je ne vois aucune espèce de raison de condamner la politique de la France en faveur de la francophonie. Aucune.
La francophonie, ça fait un peu poussiéreux comme terme.
D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on met comme mot à la place?
Je ne sais pas.
Francophonie, ça veut dire qu'on parle français. Alors, la question ensuite, savoir, c'est quel français on parle. Mais le fait d'employer ce terme... Et puis, vous savez, ça fait... Vieillot, vous dites poussiéreux?
Un petit peu.
Moi, je ne suis pas contre la poussière, ni contre ce qui est vieux. Et un peu vieux, c'est notre histoire, c'est l'histoire des peuples qui prennent la langue. Moi, ça me convient très bien.
La patine de l'âge.
Oui, exactement, c'est la patine de l'âge.
L'anglais a cet avantage, je ne sais pas si c'est un avantage, d'être inscrit dans une modernité triomphante et d'organiser l'avenir.
Oui, c'est effectivement dans un monde qui ne serait pas du tout multipolaire, on pourrait l'entendre, l'Empire américain, etc. En vérité, je pense que le monde est infiniment plus divers. Et il est vrai que la prééminence de l'anglais, qui tient évidemment à la puissance militaire et économique des États-Unis, à la suite de ce qu'a été l'influence anglaise au 19e, ça passera. Et en même temps, je suis pas... Vous savez, c'est très difficile à apprécier, ça, quand même. Parce que est-ce que l'impérium américain a été un drame pour nous, Français, au 20e siècle? J'en suis pas sûr. Je crois même que y a eu un effet libérateur de la puissance américaine. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, sans être fanatique pro-américain du tout. C'est pas un drame du tout. Moi, ça ne me gêne pas du tout, personnellement.
Qu'est-ce que les Américains ont libéré?
La France, peut-être. Et l'Europe. Oui, quand même. On ne peut pas oublier tout ça. Enfin, moi, je ne l'oublie pas. Alors, aujourd'hui, maintenant, il y a une puissance américaine.
Ils l'ont envahi aussi, culturellement parlant. D'ailleurs, les Américains parlent, pour parler du débarquement, ils parlent de l'invasion de l'Europe occidentale.
C'est vrai, bien sûr, mais ça va avec. On a fait pareil. Tous les pays font pareil. Ils défendent leurs intérêts. Est-ce que vous avez vu, dans l'histoire du monde, des peuples tout à fait généreux qui se livrent à autrui en disant « Venez chez moi, mes chers amis, vous êtes les bienvenus ». Mais pas du tout. Il y a des luttes d'influence, elles sont normales. Maintenant, toute la question est de savoir comment nous, on se défend.
Alors, Jean-Michel Delaconté, c'est une question que l'on va se poser. On va voir votre itinéraire en premier lieu. Vous voyez le jour à Courbevoie en 58, dans une petite famille issue de la petite bourgeoisie ouvrière. Enfin, famille issue de la petite bourgeoisie ouvrière, c'est ainsi que vous le dites, c'est vrai? Ben vous l'avez dit à Marion Duchesne, en tout cas.
Pas ouvrière, non. La ville, elme-même.
Oui, Sartrouville. Sartrouville, voilà.
Ah oui,
j'allais le dire.
Excusez-moi. Oui. Oui, la ville, oui. La ville, pas la famille.
Votre enfance, vous la passez dans les livres et les romans. Un goût pour la littérature transmis par votre père, représentant en librairie, mais aussi par votre mère, professeure d'anglais, tiens.
Oui.
Très intransigeante sur les questions linguistiques.
Oui, tout à fait.
Par quoi ça passait, cette intransigeance?
Par exemple, ma mère ne supportait pas du tout le langage souvent trivial que j'utilisais et qui provenait, comme chez tous les gosses, de l'école, de la rue, du foot dans le terrain vague, etc.
Et donc ça passait par quoi? Des punitions?
Non, pas du tout. Non, ça, parfois un peu suffoqué. En disant, mais Jean-Michel, c'est pas comme ça qu'il faut dire les choses, c'est pas bien, c'est pas esthétique, elle avait raison, tout à fait. Et puis non, c'était des remontrances, mais pas du tout sévères, c'était simplement ni des mises en garde. C'était une façon de corriger, si vous voulez, ce qui était laid. Voilà.
Et c'est une attitude que vous avez reproduite auprès des vôtres?
Non, parce que moi j'ai un langage. Parce que moi je suis un banlieusard d'origine. Hein. J'ai passé beaucoup de temps, beaucoup de ma vie dans la banlieue. Et donc j'ai un langage. Je suis un homme biface. C'est-à-dire que j'ai un langage. Quand j'enseignais, j'avais un langage relevé, si vous voulez. Je peux en avoir un si je le souhaite. Et puis par ailleurs, un langage assez, je dirais, sinon trivial, du moins assez simple. Et puis.
Argotique. L'argot s'est complètement perdu.
Oui, c'est vrai, vous avez raison.
Pourquoi?
Je pense que c'est une belle question. Je pense qu'il y a une forme d'uniformisation de notre langue et des territoires en France, pas tous, mais la plupart. Une espèce de, vous voyez, d'uniformité comme ça qui s'est installée. Et par exemple, le titi parisien. Bon, est-ce qu'à Paris, il y a encore beaucoup de populations susceptibles de parler une langue spécifique qui serait celle du titi parisien? Je crois pas. Parce qu'il y a eu des changements économiques.
Comment est-ce qu'il parlait, le titi parisien?
Ah, ça, je peux pas le dire. Je suis pas parisien, vous savez. Non, j'étais à l'école à Paris, quelques temps.
Parce que je vois ce que ça représente, mais j'ai du mal. Peut-être avec des références au cinéma, mais
oui,
à part ça...
Oui, tout à fait. Je crois que c'est un assez bon exemple, ce que vous dites. Hein. Audiard, par exemple, qui disait que lui-même ne parlait pas argot, mais c'était une langue populaire, mais qui, je crois, était assez proche de ce qu'on peut penser du titi parisien. Je crois qu'il y a une certaine vivacité, je dirais un certain rire même, je dirais même quelque chose d'un peu goulayant dans la façon de parler, de s'exprimer. C'est ça que je dirais. C'était assez savoureux.
Peut-être une façon un peu joyeuse, en fait.
Oui, oui, tout à fait. Voilà. Joyeuse, absolument. Oui, quelque chose de joyeux, quelque chose de très vif, l'image traditionnelle. Après tout, Gavroche, quoi. Hein, c'est quelque chose de libre comme ça, d'un seul rang, de jeune, de juvénile. C'est l'impression que ça donne, en tout cas. Hein, une grande liberté par rapport au code majoritaire.
Il y a des dictionnaires d'argot, parce que c'est une vraie langue en soi. Hein.
Absolument.
On peut très bien ne rien comprendre à l'argot.
Mais tout à fait, absolument. Absolument. D'ailleurs, l'argot n'est pas... Ouais, ce qui me frappe beaucoup, moi. L'argot n'est pas vulgaire, n'est pas grossier. Alors que ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, en revanche, c'est qu'il y a une forme de grossièreté, de vulgarité très répandue, notamment sur les ondes, à la télé, pas à la radio, bien sûr, et certainement pas sur votre radio. Mais il y a cet aspect des choses. L'argot n'est pas vulgaire. Au contraire, il est très imaginatif. Très, très imaginatif, très figuré. Il est facilement drôle, il invente des formules. Il est inventif. La grossièreté n'est pas inventive. L'argot est inventif. C'est pour ça que c'est une langue.
Formé au latin, Jean-Michel de la Comté, vous découvrez l'exigence de la langue. Vous avez également été marqué par des enseignants. Vous le dites, ils vous ont transfusé leur passion du français. Marion Duchesne.
Il y a, dans la littérature de haute volée, quelque chose des paradis artificiels, lance Jean-Michel de la Comté. Très vite, la langue m'a fait voyager. Sans doute a-t-il aussi été influencé par son patronyme aux sonorités prédestinées. Qui sait, répond Jean-Michel de la Comté, une chose est sûre, ce nom très français m'a poussé vers la belle langue. À 10 ans, il dévore Sans famille d'Hector Malo et Mon ami Flicka, roman équestre. À 12 ans, il découvre 93 de Victor Hugo. Il se passionne pour La princesse de Clèves, d'où son intérêt pour l'âge classique, les 16e et 17e siècles. J'avais 8 ans quand j'ai commencé à écrire, souligne Jean-Michel de la Comté. 30 ans plus tard, il est connu et reconnu pour ses portraits littéraires. Ambroise Paré, La Boétie, Montaigne, Bossuet, Saint-Simon. Je ne suis pas un historien, répète Jean-Michel de la Comté. Je cherche à faire revenir les gens qui sont morts en peignant avec les mots. L'écriture, il la pratique à haute dose comme un processus d'ivresse. Pour Racine en majesté, paru en 1999 chez Flammarion, j'ai écrit 18 heures par jour, une séquence ardente dont je suis sortie en titube. Une vie riche et non rectiligne pour l'écrivain qui a travaillé durant 20 ans dans la diplomatie culturelle. Le Laos, le Japon, Jérusalem, autant de rencontres passionnantes avec des diplomates. Je suis un homme de contact plus qu'un voyageur. Durant 10 ans, Jean-Michel Delaconté enseigne aussi la littérature à l'université de Bordeaux à des étudiants attachants. Avec la collection Nos vies chez Gallimard, il prend la suite de son ami J.B. Pontalis, grand psychanalyste et grand éditeur. J'ai toujours défendu une littérature de qualité. Jean-Michel Delaconté n'aime guère les romans du réel d'aujourd'hui. Il le dit en 2016 dans sa lettre de consolation à un ami écrivain. Au bavardage de notre société bruyante, je préfère l'essentiel en peu de mots. Non-croyant, se qualifiant même de mécréant, il défend une mystique de la langue. Pour preuve, son dernier opus, Notre langue française aux éditions Fayard, et Jean-Michel Delaconté de conclure « Mon livre est une prière laïque ».
Alors, que recouvre cette dénomination un petit peu curieuse de mystique de la langue, Jean-Michel Delaconté, sachant que vous dites également aimer le catholicisme à la manière de Chateaubriand, qui voyait une religion ayant un vrai culte de la beauté?
Oui, c'est un point tout à fait central. Ça dit en passant, j'ai enseigné, c'est important, je vous dirai pourquoi peut-être, à Bordeaux pendant 2-3 ans, 3 ans je crois, et ensuite à Paris 8, c'est-à-dire en Seine-Saint-Denis pendant une dizaine d'années. Ce n'est pas le même public. Et j'ai appris d'autres choses. Hein, c'était, on en parlera peut-être, je ne sais pas, mais enfin, je tenais à le préciser.
Mais parlez-en maintenant.
Alors, ça m'éloigne de la question que vous posiez.
Alors, d'abord la première question, d'accord. Et puis après on y revient.
Alors, la question de la beauté, de la mystique, de la langue. Oui, parce que la langue nous dépasse. Elle dépasse chacun d'entre nous. Chacun dit « je parle », oui, bien sûr, c'est « je parle », bien sûr. Mais c'est les autres qui parlent en nous. Je veux dire par là même que la langue, par définition, qu'on utilise, c'est la langue que les autres parlent et comprennent. Sinon, ce serait un soliloque. Hein, ce serait plutôt l'affaire des fous. On ne l'est pas tous, fous. Donc, au-delà de nous-mêmes, il y a une forme de, j'ai employé un mot peut-être un peu lourd, de transcendance de la langue. C'est-à-dire que la langue se réfère à quelque chose non seulement plus large que nous, mais plus haut que nous. Et parce que la langue elle-même, elle est pleine de mémoire, de passé, d'exigence, pleine de mort aussi. Daniel Salnab a écrit un livre qui s'appelait « Le don des morts ». C'est un beau titre. La littérature et la langue nous sont données aussi par les morts. Il y a un lien très très fort entre, à travers la langue, entre la vie et la mort, entre ceux qui sont morts, nous-mêmes qui allons mourir. C'est tout ça, la langue. Donc, il y a quelque chose de sacré dans cette affaire. Voyez, et de là, le rapport à la religion se découle assez, enfin, en découle assez facilement, parce que le vrai Chateaubriand fait de la religion catholique la religion même de la beauté. Et cette religion même de la beauté, elle se traduit par les arts. Peinture, musique, littérature. C'est pour ça qu'il dit ça. Et il y a dans la beauté nécessairement quelque chose de mystique qui nous dépasse.
Est-ce qu'on n'a pas un rapport névrotique au français, quelque peu, un peu maladif, parce que le français a été aussi un instrument politique extrêmement, pénétrant dans la société française, utilisé par la République essentiellement. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une langue que l'on a en commun, en partage neutre. C'est une langue qui a été le produit aussi d'une volonté.
Ah oui, c'est l'une des particularités de cette langue qui donne sa force en même temps et qui donne aussi l'impact politique qu'elle conserve. Et elle est l'objet de considérations, dont mon livre et bien d'autres. Hein. Pourquoi ? Bah parce que, vous le savez aussi bien que moi, j'imagine, la France s'est construite très largement autour de sa langue. D'où d'ailleurs, soit dit en passant, la fondation de l'Académie française au XVIIe siècle, sous l'impulsion de Richelieu, qui est le centralisateur le plus, avec ensuite Louis XIV, enfin, et la République ensuite. Mais Richelieu et l'Académie française, voilà un symbole parfait du lien qui existe entre la langue et la construction de l'État, c'est-à-dire une représentation politique de la langue voulue comme telle. C'est pour ça que c'est tellement important. C'est tellement important. On ne peut pas dissocier politique, de la langue en France, et politique générale. Les deux sont liés comme comme un point fermé. C'est pour ça que c'est tellement important. Et moi, j'ai écrit mon livre parce que il y a une forme de détachement, d'indifférence, de négligence par rapport à la langue, comme si ce n'était pas un élément essentiel de notre identité. Et quand je dis identité, il ne faut pas y voir des sous-entendus de notre identité, simplement l'identité française, c'est-à-dire une histoire qui se poursuit depuis des siècles.
Mais alors, comment jugez-vous l'initiative d'Emmanuel Macron, du président de la République, qui consiste à vouloir faire du français la troisième langue parlée dans le monde, 700 millions de locuteurs à l'horizon, peut-être dans 2050 ou 2065. Qu'est-ce que ça signifie de définir une langue comme étant une identité nationale et en même temps un trait d'union avec des millions de gens, de personnes qui ne sont pas directement reliées à cette identité-là?
Oui, je pense qu'il n'y a pas de contradiction du tout. Je pense que, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, si un certain nombre de pays et de peuples prennent la langue française comme moyen de véhiculaire pour eux de s'exprimer, de se comprendre, ça prouve que la langue française leur est utile. Quant à l'identité nationale, moi, je pense que c'est simplement... Je donne une image pour être très, très clair. Pour moi, la langue française, en France, c'est la poutre. On peut ne pas être d'accord avec ce que je dis. On a le droit de dire ce qu'on pense. Il faut le dire. Le politiquement correct, ça ne m'intéresse pas. Donc, pour moi, la poutre, c'est le français. Parce que le français, c'est étonnant, mais ça vient de France. Ah oui, c'est étrange. Bon. Que ensuite, pour des raisons historiques diverses, la langue se soit répandue dans le monde et qu'elle ait fait l'objet d'une réappropriation par un certain nombre de peuples, ceux qu'on appellera, ou de pays, les pays francophones. D'accord, il y a un mouvement là, de rapprochement, mais je ne vois pas du tout une contradiction. Personne n'oblige aucun pays à prendre le français comme langue nationale ou binationale. Aucun. Rien. C'est volontaire. C'est un exercice de liberté. Eh bien, je ne vois pas du tout pourquoi il y aurait une contradiction entre le français de France et, d'autre part, la francophonie.
Vous qui avez été Jean-Michel Delacomté dans la diplomatie culturelle, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, alors même si vous parlez on parlait déjà en 1910 de la crise du français, mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une crise très importante du français dans le monde, mine de rien, au-delà de justement de ce plan présidentiel qui peut-être d'ailleurs révèle que l'on a du retard, est-ce qu'il n'y a pas le fait que le français est en recul partout?
Vous voulez dire dans le monde?
Dans le monde, oui.
Très sincèrement, je ne suis pas capable
de... Il y a une crise des lycées français, par exemple, manifestement.
Oui.
Les lycées français à l'étranger, j'entends.
Oui. Sur le rayonnement français, je ne suis pas assez spécialiste de la francophonie, si vous voulez, en tant que technicien de la chose, qui n'est pas mon cas. Moi, je m'exprime comme écrivain, même si, cependant, un temps de diplomatie culturelle, ça nous renseigne un petit peu sur l'état des choses.
Oui, quand même, au Japon, là-haut,
etc. Oui, tout à fait, vous avez raison. Ce que je dirais, c'est que... moi, ce que j'ai vu, si vous voulez... Alors, je ne sais pas ce qu'il en est exactement aujourd'hui. Je pense qu'il y a une volonté politique de la part d'Emmanuel Macron à laquelle j'applaudis. Reste à savoir ce qui sera fait effectivement. C'est une autre chanson, ça. Mais ce que j'ai vu, moi, pendant 20 ans, je vais vous le dire très clairement, que ce soit quand j'étais à Paris ou au Japon ou à Jérusalem, j'ai vu une politique linguistique assez énergique. C'est-à-dire le français technique ou le français par les médias, la télé et éventuellement la radio. Ça, c'est vrai. Et j'ai vu exactement dans le même temps une relégation du français littéraire qui était considéré comme un véritable boulet.
Ah bon ?
Oui, comme un véritable boulet. Ça, je peux vous le dire. Et ça se traduit notamment par ceci, par la fermeture des instituts culturels. Je trouve que c'est insensé, ça. On ferme des instituts culturels au prétexte que ce serait trop cher. Mais moi, j'ai été au Japon et il se trouve que j'étais à Kyoto. Il y a quand même un certain nombre d'années, je vous le concède. J'étais dans un poste tout à fait intéressant. J'étais chargé de ce qu'on appelait là-bas des cours supérieurs. C'est l'Institut français à Kyoto est juste à côté de la deuxième université du Japon. Bien. Il y avait plein d'étudiants japonais qui venaient dans cet institut, avec pour moi et les autres et les collègues. Quand je suis parti... Le poste a été, pour des raisons budgétaires, fermé. C'est complètement fou, voyez. Et Voilà un exemple de relégation de la pensée et de la littérature française dans notre coopération internationale. Dans le même temps, il y a un soutien très fort au lycée français, même si ça pose quand même des problèmes, parce qu'il faudrait sans doute améliorer. Je crois que le président Macron a dit qu'il voulait développer, il a raison. C'est un vecteur essentiel d'influence. Et par ailleurs, comme je le disais, il y a une politique linguistique qui continue à être vigoureuse. Mais il y a quand même, sur le plan de ce qui fait la représentation du français à l'étranger dans les classes, disons, supérieures, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, c'était notre littérature, notre image de marque. Et ça a été contesté, à mon avis, très gravement.
Soyons un petit peu polémiques, Jean-Michel de la Comté. Est-ce que la France a une bonne influence à l'étranger à travers la culture qu'elle répand ? Parce que vous dites, oui. En soi, l'institut culturel, bon, ferme, on peut porter un jugement sur sa propre influence aussi. Est-ce qu'on donne ce que les autres viennent chercher ?
Alors, ça dépend, je dirais que ça dépend des pays, ça dépend des situations. Pour préciser mon propos sur le Japon, c'était au Japon, ce qui n'est pas tout à fait rien.
Donc les Japonais ont une image de la France,
oui.
On sait ce qu'elle est.
C'est-à-dire ?
Une excellente image.
Voilà, absolument. Et ils venaient chercher de la culture quand j'étais à Kyoto. Là,
Et du haut de gamme.
Et du haut de gamme. Fermer un institut comme ça, non mais attendez.
Mais est-ce qu'on leur a proposé du haut de gamme ?
Vous voulez dire que j'étais un mauvais prof ?
Non, mais j'en sais rien.
C'est odieux. Je plaisante. Je ne sais pas si j'étais un bon prof, mais enfin, ils venaient, les jeunes gens absolument formidables. Moi, je suis plein d'admiration pour le Japon, pour ce goût. Et j'étais plein, et pas seulement quand je dis je, c'est plus collectif que le je, hein, mais j'étais quand même plein d'admiration et de gratitude pour ces jeunes gens qui venaient de l'université. Pour les Japonais, c'est difficile le français, hein, comme l'anglais d'ailleurs, hein, qui faisait cet effort, qui était d'un excellent niveau, qui aimait la culture française, la pensée française, la littérature française. J'étais très frappé par le fait que ces éléments d'appréciation n'aient pas été pris en compte du tout par ce qui était à l'époque le ministère. Parce que pourquoi ? Pour une raison très très simple, c'est que c'était un regard strictement comptable posé. Hein, sur notre coopération, sans se poser la question de savoir si c'était utile à notre rayonnement. Voilà. Bon, c'était à l'époque, il y a quand même trois décennies maintenant, mais je crois pas du tout que c'est beaucoup changé, puisque les instituts se ferment de plus en plus. Si Emmanuel Macron veut faire ce qu'il veut faire, ce qu'il dit vouloir faire pour la francophonie, et je n'ai pas de raison de douter de sa bonne volonté, que nous cessions, nous, de fermer les instituts culturels parce que on diffuserait une culture élitiste. Ça nous est demandé aussi.
On ne peut pas remplacer les instituts culturels par les médias, par la promotion de médias.
C'est pas contradictoire, il faut faire tout en même temps. C'est pas le même public. Je vais vous dire pour une raison très très simple. C'est le média audiovisuel, il est essentiellement oral. L'institut culturel, c'est l'écrit. Et les deux se complètent.
Jean-Michel de la Comté avec nous ce matin, notre langue française, aux éditions Fayard. Vous restez, bien sûr, dans notre studio. Et on va se retrouver juste après les infos et l'édito de Gérard Leclerc. A tout à l'heure.
Aux Boucheries Metzger, du gigot d'agneau français pour nos repas de Pâques. Oh, il faudrait être cloche pour s'en passer.
Dans vos boucheries Metzger, en ce moment, le petit gigot d'agneau français de l'Aveyron prêt à cuire est à 44 euros le kilo seulement. 44 euros le kilo de gigot d'agneau français. Une telle qualité aussi peu chère ? Ne cherchez plus, c'est Metzger.
Boucherie Metzger, deux adresses. 104 rue du Point du Jour à Boulogne-Billancourt et 191 boulevard Binot à Neuilly-sur-Seine.
Laissez le froid et le bruit dehors. Et ne laissez entrer que la lumière.
Avec la Maison de la Fenêtre, gagnez en confort de vie avec des fenêtres haute performance en bois, PVC ou aluminium.
Volets roulants, portes, stores et fenêtres, avec la Maison de la Fenêtre, valorisez votre patrimoine, faites des économies d'énergie et profitez des nouveaux crédits d'impôt valables jusqu'au 30 juin.
La Maison de la Fenêtre, à Villejuif, 01 42 11 03 03.
La Maison de la Fenêtre, certifié Calibat et RGE.
Un tapis, c'est une œuvre d'art. Son entretien demande un véritable savoir-faire. Depuis 3 générations, les maîtres restaurateurs de la clinique du tapis réparent vos tapis, même très usés, et leur redonnent éclat et couleur avec des pigments naturels. Un savoir-faire traditionnel à découvrir dans nos ateliers à Paris. La clinique du tapis vous propose également un service de nettoyage haut de gamme, à la main. La clinique du tapis, et votre tapis reprend vie.
À Paris 7e, 25 rue Bellechasse, et Paris 16e, 75 rue Michel-Ange. 01 40 71 53 06.
Devis gratuit.
Radio Notre-Dame.
Bonne matinée et bien sûr bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur l'antenne de Radio Notre-Dame, radionotredame.com. Vous savez que vous pouvez nous écouter partout dans le monde. Évidemment, vous pouvez écouter en téléchargement toutes nos émissions, Le Grand Témoin, Le Grand Débat. Et ce matin, Jean-Michel Delaconté, écrivain essayiste avec notre langue française dans cette semaine justement qui lui est consacrée. 8h, les infos, Flora Cortès, bonjour.
Bonjour à tous. Nicolas Sarkozy mis en examen dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne électorale de 2007 a déclaré qu'il vivait l'enfer de calomnie depuis 2011. Selon sa déclaration faite au magistrat publiée ce matin sur la fiction qui est la mienne de montrer que les indices graves et concordants qui sont la condition de la mise en examen n'existaient pas. L'ancien chef de l'État dit être accusé sans aucune preuve matérielle par les déclarations de Muammar Kadhafi et de ses proches. L'ex-président de la République a été mis en examen hier soir pour corruption. Corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens. Un trafic SNCF très perturbé, des vols annulés et des écoles fermées. Fonctionnaires et cheminots mèneront aujourd'hui une première charge contre le projet de réforme du gouvernement pour un service public de qualité et la défense de leur statut. À ces enjeux communs s'ajoutent des revendications propres. Les 7 syndicats de la fonction publique sont mobilisés et réclament notamment une hausse de leur pouvoir d'achat. Les cheminots qui ont choisi le même jour pour défiler défendent eux l'avenir du rail. Leur combat commun pour l'intérêt général se traduira à Paris par des retrouvailles place de la Bastille où convergeront les 2 cortèges. En région, les syndicats du secteur privé prévoient environ 140 manifestations et rassemblements. Plus de 10 000 personnes succombent chaque année en France à une mauvaise utilisation de médicaments, alors qu'au moins la moitié de ces morts sont évitables. C'est ce qu'affirme un collectif de professionnels de santé. Mauvais dosage, mauvaise prise, non-respect du traitement prescrit, interaction entre plusieurs médicaments. Les causes d'un accident lié à un médicament sont diverses et les conséquences sont loin d'être anodines. C'est ce qu'écrit le collectif Bon Usage du Médicament dans un communiqué ce matin. Cette organisation regroupe de multiples acteurs de la profession, paramédicaux, et pharmaceutique, de l'industrie pharmaceutique, de l'assurance complémentaire santé et des systèmes d'information liés à la santé en général. Dans l'actualité internationale, mise en cause dans le scandale de la corruption autour du géant brésilien Odebrecht, le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski a démissionné hier, mais le Parlement pourrait lui réserver une dernière humiliation. Les députés doivent débattre aujourd'hui de son cas et pourraient refuser sa démission pour le destituer malgré tout. À l'issue du débat, le Parlement, dominé par l'opposition, se prononcera demain. S'il décide de voter la destitution, les députés réserveraient au président de centre-droit le même sort qu'à son prédécesseur Alberto Fujimori, lui aussi destitué alors qu'il avait pourtant annoncé son départ. Enfin, de l'Empire State Building aux pyramides d'Égypte, des monuments emblématiques vont s'éteindre samedi lors d'une nouvelle heure pour la planète, organisation destinée à mobiliser contre le changement climatique mais aussi cette année pour sauvegarder la nature.
Merci Flora Cortès. L'éditorial de Gérard Leclerc à présent. Les relations avec la Russie de Vladimir Poutine sont difficiles, on le sait bien, mais le président russe s'inscrit dans l'histoire de son pays et dans une tradition qui n'est pas exactement la nôtre. Peut-être Dostoïevski est-il un bon médiateur pour le comprendre, pour les comprendre, Vladimir Poutine et la Russie. Gérard Leclerc.
Emmanuel Macron a-t-il eu vraiment raison de boycotter le stand de la Russie lors de l'inauguration du Salon du Livre? Je ne suis pas loin de le penser, même si on comprend la conjoncture diplomatique délicate qui était la sienne à la suite des accusations de Londres à l'égard de Moscou quant à un attentat chimique opéré sur le sol anglais. N'y avait-il pas cependant une distinction à faire entre la politique et la culture? Comme l'a remarqué Madame Solzhenitsyn, l'épouse de l'immense écrivain, dans un entretien passionnant avec Laure Mandeville dans le Figaro, dans la délégation russe se trouvaient beaucoup d'écrivains qui font partie de facto de l'opposition et écrivent de manière critique à l'égard du pouvoir. N'est-il pas important de maintenir des liens intellectuels entre la France et la Russie, cette France dont Alexandre Solzhenitsyn, selon son épouse, était devenu amoureux? Maintenir de tels liens, et même les développer, n'est pas d'ailleurs la garantie d'une entente idyllique, il faut bien l'admettre. Ce n'est pas de Poutine que date le paradoxe d'une relation difficile. La Russie nous fascine et en même temps nous désoriente lorsqu'elle ne nous effraie pas. Qui est entré un jour, par exemple, dans l'univers de Dostoïevski, sait bien de quoi il retourne. Pour avoir subi moi-même sa fascination, je puis attester des sentiments contradictoires que l'âme russe peut susciter. Un des meilleurs interprètes que je connaisse de l'auteur des frères Karamazov, Nicolas Berdiaev, a tout dit là-dessus. Le dostoïevskisme n'enferme pas seulement pour les Russes de grands trésors spirituels, mais aussi de spirituels dangers. Il y a dans l'âme russe une soif d'autoconsomption, l'enivrement dangereux de sa propre perte. On ne saurait donc impunément l'exhorter à la tragédie, prolonger cette tragédie comme un chemin parmi le dédoublement et les ténèbres. Ce qui vaut pour l'âme russe vaut sans doute pour la politique russe. Mais la crainte que peut nous inspirer le pays de Vladimir Poutine doit-elle nous conduire à la rejeter hors de notre espace continental ? Emmanuel Macron lui-même affirme la nécessité de maintenir un dialogue indispensable pour l'équilibre de l'Europe et du monde.
Le grand témoin, Louis Dauphrène.
Jean-Michel Delaconté, écrivain essayiste précisément. Alors comment peut-être peut-on faire le lien entre la Russie, l'âme russe et puis l'esprit français, Jean-Michel Delaconté ?
Je crois qu'il est assez clair qu'il y a entre la Russie et la France un lien que je crois assez particulier. Alors, soit sur, au plan personnel, ça je n'en dirai qu'un mot, c'est-à-dire... À l'époque, on lisait beaucoup lorsqu'on était jeune, et pas des livres de la jeunesse. Moi, je fais partie des gens qui ont.
Oui, vous n'aimez pas la littérature jeunesse.
Non, j'aime pas. Non. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve que c'est dommage. J'allais dire justement, moi, par exemple, j'ai lu Dostoïevski, Tolstoï, Gorki, etc. J'avais, je sais pas, 15 ans, 16 ans, quoi. C'est une formation intellectuelle et spirituelle formidable. Et je trouve qu'on n'a pas besoin de littérature jeunesse. Pour moi, c'est un fléchissement. Bon. Cela étant posé, j'écoutais les excellents propos
de Gérard Leclerc.
C'est très fin ce qu'il dit, je trouve. Moi, je ne connais pas bien la Russie, mais j'ai la conviction qu'il y a entre la Russie et nous quelque chose est très proche d'ailleurs. Après tout, le français en Russie. Enfin, je parle bien sûr au sein de la haute noblesse, a été une langue abondamment parlée. Donc, d'une part. D'autre part, si j'étais russe, il me semble que j'aurais pris assez mal l'attitude du président français de ne pas... Je suis assez d'accord avec ce que dit Gérard Leclerc. Je trouve que le culturel, en l'occurrence, va dans son caractère, si vous voulez, ça dépasse le moment présent. Voilà. Et je trouve que la culture... et en particulier le livre, cette mémoire vivante, elle va au-delà d'une réaction politique ponctuelle qui sera très différente, je l'espère, demain ou après-demain, bien sûr, ce qui s'est passé, la mort de cet ex-vieron, tout ça, c'est naturellement grave.
Mais c'est conjoncturel.
C'est conjoncturel, absolument.
Jean-Michel Delaconté, quand on parle de l'âme russe, est-ce qu'on peut parler aussi de l'âme française ? Est-ce que ça a un sens ? Ou est-ce que c'est une vision fantasmée ?
C'est difficile parce que, d'abord, l'âme russe, moi, je ne prétendrai pas tout la connaître. Je la connais un tant soit peu par la littérature et éventuellement par le cinéma et la musique. Mais l'âme russe en question. L'âme française,
Qu'est-ce que c'est, en réalité ?
Le concept d'âme est tellement difficile. En même temps, j'aime beaucoup que ça revienne. Parce que c'est un mot qui était considéré jusqu'alors, jusqu'à pas très longtemps, même encore aujourd'hui peut-être, comme quasiment obsolète. L'âme, c'est quoi cette chose ?
Un peu comme au cinéma. Il y a des choses spirituelles qui reviennent en ce moment. Oui. La prière, l'apparition, etc.
Oui, si vous avez raison. Oui. Je crois qu'il y a un besoin de sacré, de spiritualité. Notre société est vraiment trop sèche. Alors, l'âme française... on peut essayer, de la découvrir à travers justement les caractéristiques, les attributs de notre langue. On peut essayer, c'est-à-dire la clarté, enfin théoriquement, puisque ça se perd un peu, faut bien le lire, dans le grand bavardage généralisé, le grand cafouillis.
Pourquoi dit-on que la langue française est claire, et plus claire qu'une autre ?
Parce que la façon même syntaxique de construire sujet, verbe et puis ensuite les compliments...
L'ordre des mots alors ?
L'ordre des mots est très très important.
Mais vous pouvez changer l'ordre des mots sans que...
Si vous dites,
vous savez,
marché,
la phrase d'amour, vos yeux,
ben justement,
etc.
Oui, mais justement, à contrario. Quand Molière s'amuse avec cette phrase, la marquise, on voit très bien que justement, si on essaie de changer l'ordre de la phrase, ça devient ridicule. Pas toujours, il faut s'entendre, attention.
Mais on la comprend.
Ah, on la comprend, oui, bien sûr. Oui, mais bien sûr, on la comprend. Mais enfin, on la comprend avec du rire, du sourire, de l'ironie.
C'est vrai.
Et parfois, alors ça, tout change. La poésie va changer. Mais parce que là, il ne s'agit plus d'ironie, il ne s'agit plus de ridicule. Il s'agit au contraire d'une façon de dépasser la langue, mais par elle-même, tout en restant dans l'ordre du sens, bien évidemment, et de l'unification.
Alors, donc il y a la clarté.
Oui, il y a la clarté. Il y a le goût de l'élégance. Théoriquement, tout ça, c'est ce qui est. Ça fait partie, si vous voulez, ça fait partie des vertus qui sont, depuis des siècles, revendiquées. Par, en particulier, les écrivains. En particulier. Tout ça, ce sont des notions qui semblent étranges aujourd'hui. Comment ? La langue doit être élégante, mais on s'en fiche, ça n'a aucune espèce d'importance. Il faut qu'elle soit, aujourd'hui, fonctionnelle. Bon. Ben, le français, c'est plus que ça. D'ailleurs, toute langue est plus que ça. Mais le français, en particulier, est plus que ça. C'est pour ça que dans mon roman, quelle étrange expression, parce qu'il y a un peu quelque chose d'un peu romanesque, remarqué dans mon livre Notre langue française, je souligne l'importance de la beauté, de l'esthétique, qui est tout à fait fondamental. Et le français, cette vertu d'élégance qu'il a toujours revendiquée, me semble l'une des composantes de la française, si elle existe, par exemple, qu'on va retrouver dans la gastronomie, par exemple.
Est-ce que c'est une langue de classe ? Parce que le français a été l'apanage de l'aristocratie, du pouvoir, contre les patois, même contre le latin. De l'Église, qui s'est opposée à la diffusion du français. L'Église s'est opposée à la diffusion du français en France.
Oui, il y a eu un conflit de pouvoir.
Rétrospectivement, on peut voir les choses comme étant la langue des dominants. En fait.
La langue des dominants.
Je n'irai pas jusqu'à dire que l'orthographe est du fascisme, mais
n'est pas loin. La langue elle-même, comme disait Barthes.
Voilà.
La langue est fasciste. Vous savez, la grande dichotomie dominant-dominé, elle n'a qu'une efficacité assez limitée, parce que c'est quand même légèrement manichéen. Je crois que les choses sont un tout petit peu plus complexes dans la vie, heureusement. Donc ce type, si vous voulez, de dichotomie ou d'opposition, pour ma part, ce type-là, je le récuse complètement. Dominant-dominé, je ne vois pas ce que ça veut dire.
Mais elle a été imposée par le haut. Ça, c'est certain.
Alors, mais ce qu'il y a, mais pour des raisons assez simples quand même. C'est le rôle de l'écrit. On oublie toujours cette dimension-là. Le français, et ça vaut, j'imagine, pour la plupart des langues, je ne suis pas linguiste, mais en tout cas pour le français, entre le français écrit et le français oral, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et dans la création, d'ailleurs, c'est ce que je dis aussi dans notre langue française, dans mon texte, j'explique un peu, à la suite d'ailleurs du travail de certains linguistes, que l'origine du français est une origine écrite. Écrite. Et le lien entre le français oral et le français écrit, c'est un lien tout à fait particulier. C'est-à-dire que la part de l'écrit, mais qui a construit l'État lui-même. C'est ça qu'il faut bien concevoir. Vous voyez ? Et donc, il y a en effet la langue du peuple, il y avait l'argot que vous citiez tout à l'heure, il y a la langue de l'Église, qui n'est pas non plus celle de la rue, ni celle nécessairement de l'écrit. Tout ça s'est entremêlé. C'est pour ça que dominant-dominé, c'est un petit peu, cette dichotomie est un petit peu rapide. Vous voyez ? Maintenant, un problème de classe. Oui, bien sûr. Enfin, on se doute bien que ce n'étaient pas les paysans qui étaient la classe qui constituait la classe sociale qui mettait en avant la culture écrite, c'est évident. C'était quoi ? C'était les clercs et c'était incidemment ou la noblesse, mais surtout les clercs.
Le château de Villers-Cotterêts, petite ville de l'Aisne, on le sait, pas très loin de Paris, à la riche culture, évidemment, va devenir un laboratoire de la francophonie. Ça fait partie des mesures annoncées par le président Emmanuel Macron pour cette journée, pour la journée de la francophonie. Donc, le château va être rénové. C'est une tâche titanesque parce que ce château du XVIe siècle, propriété de l'État, classé monument historique, deviendra donc un lieu d'exposition, de rencontre, de recherche, de pédagogie. Villers-Cotterêts, c'est évidemment François Ier, 1539, et l'ordonnance qui a donné alors le pouvoir, presque tout pouvoir aux Français, en tout cas en matière judiciaire.
À la langue française. Hein, oui, tout à fait. Ce qui s'est passé, avec, oui.
Pour les actes, etc.
Oui, oui, tout à fait. Oui.
Ça, c'est une étape décisive.
C'est une étape tout à fait difficile. Oui, décisive, vous savez, parce que c'est ce qu'on oublie parfois, peut-être, c'est que c'est cet édit de Villers-Cotterêts est aussi une étape très importante pour la centralisation en France. C'est-à-dire que jusqu'alors, le droit pouvait s'exprimer, mais en langue maternelle, c'est-à-dire selon les, je dirais pas les patois, mais les idiolectes, comme on dira, si vous voulez, hein, français du Nord, du Sud, etc., du langue. Bon. Et avec François Ier, c'était le français qui était posé pour l'ensemble du pays, la langue, même la langue de l'Île-de-France, en l'occurrence, enfin la langue du roi, de la cour. Voyez, c'est en ça qu'il y a eu là une forme de resserrement, si vous voulez, sur le français que je dirais national, disons.
En 1910, la Revue des Deux Mondes publia La crise du français, donc un article d'Émile Faguet, écrivain, critique littéraire, professeur à la Sorbonne, académicien. On n'a jamais plus mal écrit le français, on ne le sait plus du tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui on parle mieux, moins bien, Jean-Michel Delacoste?
Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui?
Oui.
Il dirait que ça s'est aggravé. Et que ça tourne à la...
Comment mesurez-vous?
Il suffit de... Ah, je vais vous dire, je parlais d'enseignement tout à l'heure, hein, nous évoquions l'affaire. Quand on voit le niveau des copies, le niveau de l'écrit en général, aujourd'hui, on ne va pas me faire croire que c'est mieux aujourd'hui, que c'est pareil aujourd'hui que c'était qu'il y a 20 ans ou 30 ans, ou a fortiori il y a 100 ans. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a un délabrement global de la langue écrite. Je parle de l'orthographe et de la syntaxe, hein, tout simplement.
Mais par rapport à la tyrannie qu'avait imposée la Troisième République.
La tyrannie?
Oui, enfin même avant la Troisième République, puisque les emplois publics, je crois, pour accéder aux emplois publics, l'orthographe est obligatoire en 1832.
Oui.
C'est Guizot, je crois, qui rend qui commence. Enfin, il y a une politique de volontariste.
Oui.
Mais la Troisième République va en faire une sorte de religion. Donc c'est vrai qu'on a peut-être desserré un petit peu l'étau.
Ah ben on l'a desserré.
Enfin, au très nettement même. Mais...
Ah oui, parce que non seulement on l'a desserré.
Parce qu'on avait un rapport peut-être un peu...
Ah, tout s'effondre, vous plaisantez.
Oui.
Non mais enfin... Non, mais on peut considérer que l'orthographe... D'ailleurs, il y a des gens qui
tout
le disent.
Tout fout
le camp. Hein. Non, pas ouais. Tout fout le camp. Non, je ne sais pas ce que je veux dire non plus. Mais je veux dire, dans ce domaine-là, il y a même des gens qui considèrent, vous le savez sans doute, qu'au sein même, ça a été le cas au sein de la rue de Grenelle, au ministère de l'Éducation nationale, que finalement, l'orthographe, c'était complètement... C'était aléatoire, c'était à la tête du client, quoi. Alors, J'aimerais savoir ce qu'on peut comprendre à certains textes qui sont écrits dans un véritable charabia, où il y a une faute d'orthographe et de langue, d'ailleurs, à peu près pour les trois mots. J'aimerais savoir comment on peut se comprendre les uns les autres. C'est quand même de ça qu'il est question. Je veux dire, une langue, ça
c'est... C'est le vivre ensemble qui est en
jeu. Non, c'est l'être ensemble. Le vivre ensemble, ce sont des morceaux qu'on met à peu près ensemble et en espérant que ça colle. Ben moi, je préfère tendre vers un... Naître ensemble, naître, pas du verbe naître, mais du verbe être. Une façon d'être ensemble, de se comprendre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on pense la même chose. Moi, c'est très curieux, vous savez. C'est peut-être pas si curieux que ça, d'ailleurs. Il y a du politiquement correct qui est censé faire comme de la colle. Mais pourquoi? Précisément parce qu'il y a une dérive des continents, une dérive comme ça des citoyens, des... moi, je crois que c'est ça, le vivre ensemble. On essaye de faire tenir ça coûte que coûte. En étouffant la pensée et d'ailleurs le registre sémantique et de la langue elle-même. Il faut faire attention à ce qu'on dit surtout. Hein, bon, parce que tout ça, ça dérive. L'orthographe, la langue convenable, je ne parle même pas de la belle langue, mais l'orthographe, une syntaxe correcte, assumée par chacun, je trouve ce sont des éléments de proximité. Ça rapproche, sans qu'il fasse faille pour autant des forceps ou des carcans, des contraintes extérieures. C'est une intériorisation de la règle qui est partagée par tous les locuteurs. Je trouve que c'est un bel effort intellectuel et éventuellement même spirituel.
L'orthographe n'est pas un obstacle à la diffusion du français?
Ça dépend comment ça se passe, ça dépend à qui on s'adresse.
Est-ce que l'écrit ne contredit pas l'oral pour le coup? Enfin, de contredit, ou empêche l'oral. Alors, l'anglais a aussi une orthographe aberrante, mais bon, enfin une graphie aberrante,
oui.
Qui ne correspond pas du tout à la façon dont il est prononcé.
Non, c'est vrai. En français, normalement, on prononce tout. Bon. normalement. Enfin, par écrit, par écrit.
Pas autant qu'en allemand.
Oui, non, non. Oui, c'est, oui, tout
il y a des muets partout en français.
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai. Ça fait d'ailleurs le muet, c'est, ça fait partie du charme de cette langue.
Même le verbe être, regardez, il est, EST.
Oui.
Le S et le T sont muets. Bon.
Oui, 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 tout à fait.
Deux lettres sur trois, muettes.
Oui, tout à fait. Mais parce que l'écrit, le français écrit, comme toute langue d'ailleurs, mais enfin, le français écrit et le français oral, c'est pas, je dirais pas que c'est pas la même langue, c'est la même langue, bien sûr, naturellement, la souche est semblable. Mais ce sont deux univers qui coexistent. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Maintenant, vous savez, je vais vous dire quelque chose de très simple. On peut tout bazarder. Pourquoi donc? Mais j'irai plus loin que ça. J'irai plus loin que ça. Moi, je considère avec plein de gens que notre langue est une forme de patrimoine. Eh bien, regardez, il y en a plein qui s'en fichent finalement, en disant, bof, même si la langue, on s'en fiche un peu, c'est de l'élitisme, tout ça. Mais moi, je vous dis, ah bon, d'accord, c'est de l'élitisme. Eh bien, à ce moment-là, détruisons la langue, mais allons plus loin. Abattons les églises, les cathédrales, on s'en fiche. Et à quoi ça nous sert? Non, vous voyez, on peut aller très très loin dans la volonté destructrice ou dans l'indifférence.
On peut mettre de l'IKEA partout.
Oui, de l'IKEA ou rien du tout, ou de la table rase. Oui. Eh bien, on peut refuser ça, je pense qu'on a intérêt à le refuser.
L'affaire Harvey Weinstein, écrivez-vous Jean-Michel Lacomté, a embrasé le combat pour l'égalité des sexes. De ce combat, personne ne conteste la légitimité, mais c'est l'esprit même de notre langue que, par son caractère systématique, le projet de féminisation intégrale attaque à la machette.
Oui.
Alors, là, c'est un sujet sensible.
Brûlant même.
Comment est-ce qu'on peut le prendre, ce sujet du féminin, de la féminisation, des noms de métiers, des noms, en général, des mots, l'écriture inclusive en plus. Bon, qui a été retoquée, mais quand même.
Oui, je dirais, c'est pas tout à fait, voyez, enfin, je pense, c'est pas tout à fait au même niveau. C'est-à-dire que la féminisation des titres et noms de métiers, bon, je trouve que ça mérite un débat. Moi, je crois que, enfin, selon moi, la question n'est pas tellement difficile à trancher, d'ailleurs, en vérité. Il y a des points sur lesquels il faut discuter, mais pourquoi? Parce que le problème, c'est pas la féminisation, selon moi, c'est la féminisation systématique. Bon, c'est ça le problème. Maintenant, l'écriture inclusive, alors là, c'est tout à fait autre chose. Pour moi, c'est une véritable... c'est pas la machette, c'est au lance-flamme qu'on détruit notre langue. C'est un scandale.
Pourquoi?
C'est un scandale parce que c'est vraiment la tabula rasa. On rase tout ça, on rase la langue.
On ne rase pas, on ajoute.
Ouais, vous plaisantez. Comment on ajoute, mais on détruit. C'est du vitriol, cette affaire-là. Non, non, c'est l'horreur totale. Regardez, une chose très simple. Imaginons Baudelaire en écriture inclusive. Essayez de réciter ça, vous m'en direz des nouvelles. Donc, c'est anti-poétique au maximum. Ça détruit la langue. De quel droit? Mais de quel droit?
Mais de quel droit perpétuez-vous les stéréotypes masculins à travers la langue?
Non, ça me fait rire parce que... écoutez, franchement, je ne sais plus très bien ce que ça veut dire, tout ça. Les stéréotypes masculins.
Bah, le masculin qui l'emporte sur le féminin, c'est une décision.
Oui,
ça s'appelle décision de linguiste.
Oui, en français, ça s'appelle le neutre.
C'est comme ça. Ouais, bah on vous dit, bon, ah, c'est pas vraiment du neutre, ça reste du masculin.
Regardez, je vous donne un exemple. Oui, c'est du masculin, mais c'est quand même, c'est une fonction de...
Vous dites la ministre, la maire de Paris, tout ça?
Non, je dis madame le ministre. Et puis d'ailleurs, c'est en débat, ça fait partie d'une évolution, de la langue qui évolue, on est pour, on est contre. Moi, ça ne me gêne pas, je vais vous dire pourquoi. Au bout du compte, l'usage va trancher. Et donc, on dira dans 10 ans, j'imagine, ou dans 20 ans, on dira, même avant sans doute, madame la ministre. Et bon, la langue l'intègre tout ça. C'est le mouvement de la langue. Il ne faut pas corser. Ah bon, pour me résumer.
Vous faites confiance à l'usage.
Voilà, exactement. Je fais confiance à l'usage.
C'est un petit peu périlleux parce que vous avez quand même des influences très très fortes.
Oui, bien sûr, mais c'est une langue. C'est ouvert. Le peuple décide. C'est comme en politique. Le peuple est souverain. Voilà. Le peuple est souverain. Si le peuple, la langue populaire, la langue de tout le monde, choisit telle ou telle forme, eh bien, bienvenue. Ben, c'est le rôle de l'Académie française. Hein. Mm. Bossuet le dit dans son discours lorsqu'il a été élu à l'Académie française. Bossuet, c'est pas tout à fait rien dans notre littérature. Il représente assez bien l'esprit. Je me résume en une seconde. Il dit l'évolution, en gros, hein, l'évolution de la langue appartient naturellement à la multitude, comme il dit, c'est-à-dire au peuple, à la foule, et l'académie, c'est-à-dire au fond les fonctions régulatrices, l'académie est là pour mettre de l'ordre, éviter que ça déborde complètement. Je crois que c'est assez bien vu.
C'est le greffier de la langue,
pour voilà.
L'expression justement d'invité qui va s'exprimer sur notre antenne tout à l'heure, Jean Pruvot, linguiste, et qui sera avec nous tout à l'heure. Est-ce que, ça sera ma dernière question, réponse rapide, Jean-Michel de la Comté, l'erreur de la francophonie n'a-t-elle pas été de se poser à l'anglais, de se poser contre l'anglais, de s'opposer à l'anglais? Est-ce que maintenant, il n'y a pas une nouvelle francophonie à découvrir en dehors de cette logique concurrentielle?
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que le monde s'est élargi, si j'ose dire, c'est-à-dire est devenu bien plus, enfin, multipolaire, et que vous avez raison. D'abord parce que l'anglais n'est pas notre ennemi, l'Amérique non plus du reste, la langue anglaise n'est pas notre ennemi, on n'a qu'à nous résister et s'ouvrir aux autres cultures.
Merci d'avoir été avec nous ce matin. Jean-Michel de la Comté, écrivain essayiste pour cette semaine de la langue française qui va continuer sur notre antenne. Et ça s'appelle Notre langue française aux éditions Fayard.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.